One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, ben voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison. Amis auditeurs, on est ravis de te retrouver. Tu as tes animateurs, chroniqueurs, chouchous en direct avec toi. Bonjour Ariane.
Bonjour Philippe.
Bonjour Ghislain.
Et bonjour.
Comment ça va?
Ah, ça va bien.
Vous avez passé un bel été?
Ouais, on continue à le passer d'ailleurs.
On m'a dit que vous aviez beaucoup travaillé cet été, c'est vrai?
Et oui.
Sur une radio concurrente et néanmoins amie, c'est ça?
Sur laquelle nous sommes également diffusés actuellement.
Oui, parce qu'on est sur Divergence, mais on ne passe pas que sur Divergence, on le rappelle.
On passe sur RPH, Radio Pays d'Héros.
C'est ça.
Qui a fêté ses 25 ans, donc cet été, on a été pas mal présents autour des événements, et même en amont aussi sur une autre émission estivale.
Et du coup, le thème des émissions de ce mois-ci en découle.
Et oui, c'est ça, puisqu'en fait, on a participé donc à une des matinales organisées pour l'anniversaire de RPH sur le marché de Paulhan.
Sur le marché de Paulhan.
C'était une aventure. Hein.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Ça te paraît loin tout ça, Philippe?
Oui,
c'est inaccessible à toi.
C'est pas inaccessible, mais bon.
Et en fait, c'était très sympa. Donc, on a fait une SLP en direct du marché de Paulhan. Et le thème, Ariane, c'était...
C'était culture populaire et représentation homosexuelle.
Voilà. Wow.
Et donc, finalement, on récupère un petit peu ce thème-là.
Ouais.
Ouais, parce qu'on avait un peu survolé.
Tu sais, on n'avait qu'une heure, voilà, donc c'était un peu... on était un peu frustrés à la fin.
Ouais.
Donc, on rappelle au passage...
J'étais pas là.
J'étais pas là, donc effectivement, moi, je suis ravi qu'on reprenne tout ça, qu'on l'approfondisse ou...
Ou pas.
Ou pas.
C'est pas ma réplique à moi, ça, d'habitude.
En tous les cas, on rappelle qu'on garde la même formule cette année. Une formule hebdomadaire d'une demi-heure, ce qui nous permet de faire donc quatre émissions autour de la culture populaire et comment elle est diffusée dans les milieux ruraux.
Oui, voilà. Et surtout, comment est-ce que les homos sont représentés, l'homosexualité, comment est-ce qu'ils sont représentés dans les diverses formes de culture populaire qu'on a choisi d'aller explorer.
Alors, cette semaine, on explore le cinéma.
Ouais.
Et on va se servir aussi des cinémas, on récupère et on recycle.
Ouais, on recycle, on est super écolo.
On est super à la mode,
parce
dans
que
le vent.
Parce qu'il y a quelques mois de ça, on peut peut-être même parler en année, je pense que c'était fin 2009 ou début 2010, on avait reçu Marc-Jean Filaire, qui...
C'était la première fois que je venais.
C'était la première fois que tu venais, donc oui. Tu te souviens précisément de la date,
absolument,
Ariane?
Absolument, pas du tout. Non, c'était en janvier, ouais.
C'était en janvier 2010, ouais. Alors, me semble-t-il.
Ouais.
Et on l'avait reçu autour de son livre... qui s'appelle « L'ado,
la folle
et le pervers ». Et un bouquin assez passionnant. Et peut-être que le mieux, c'est qu'on écoute un premier son où Marc-Jean et les chroniqueurs qui sont là font une sorte de... De quoi, Ariane? De petit...
Là, le premier son. Le premier son, on n'entend que... on va l'écouter.
On l'écoute, d'accord, et on débrief après.
On a d'abord une vision assez légère, facile, inoffensif. Mm-hmm. Puis on va aller vers une vision plus sombre, plus noire, une figure de pervers qui peut être même un personnage d'assassin. Mm-hmm. Mais c'est uniquement parce qu'il est troublé psychologiquement. Il suffit de le dégommer à la fin pour que tout aille mieux. Puis on a une période plus compatissante, mais qui est assez agaçante la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est une victime que l'on doit plaindre parce qu'il a tendance à être suicidaire. Il a tendance à être malade. Alors le personnage du Cidéen était là une aubaine pour le cinéma, c'est-à-dire qu'on pouvait pleurnicher sur les homosexuels, mais il mourait tranquillement à la fin, ce qui fait que la société se retrouvait bien rééquilibrée dans ses modèles tant qu'on avait versé son paquet de larmes. Bon, je caricature aussi, mais ils ont caricaturé beaucoup avant moi. Donc il faudra attendre les années 70, 80 et 90, mais ça c'est doucement et il y a des choses très innovantes très tôt, parfois même des années 50 quand on... il y a des choses qui, dans les années 90, peuvent apparaître justement très arriérées. Mais bon, ça évolue. Et puis après, il va y avoir finalement une démocratisation de la figure de la lesbienne ou de l'homosexuel au cinéma. Et ça devient des personnages qui sont plus intéressants en eux-mêmes par rapport à leur sexualité.
D'accord.
Voilà. Voilà, donc sur ce premier son, on entendait Marc-Jean tout seul nous faire vraiment la progression à grands traits, voire caricaturale, comme il le reconnaît aussi.
Ouais.
Où on avait un peu dans l'ordre chronologique la typologie quoi, des personnages, comment ils ont pu être représentés un peu dans le temps, avec aussi ce constat de... Ben, c'est pas toujours vers une progression. Quoi. Dans le temps, il y a eu des moments où on a eu l'impression d'un recul, quoi, ou dans les... On a eu des choses très impressionnantes pour l'époque, quand on regarde aujourd'hui a posteriori, et puis des productions beaucoup plus récentes, vraiment décevantes au regard de ce qui avait pu être osé un peu plus tôt.
Alors, décevantes, en quoi elles peuvent être décevantes, par exemple ?
Bah, sur le côté caricatural, sur le côté stéréotypé, on a eu parfois des personnages qui étaient travaillés très finement il y a très longtemps, et puis on se retrouve avec des personnages très caricaturaux dans des productions récentes. Donc,
Oui, Gislain.
Oui, non, mais en fait, moi, ce que je relève deux trucs, en fait, ce qu'il disait, c'est que parfois, il y a des choses très surprenantes. Et là, je pense à certains Lemcho, qui est quand même quelque chose de très surprenant. Le Nobody's Perfect à la fin. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez incroyable, cette histoire
de... Tu viens de balancer la fin du film.
La dernière réplique, mais qui est la réplique culte. Quoi.
Ouais.
Mais non seulement c'est un film très drôle, mais il y a tout ce côté travestissement et mélange de sexualité, de je passe d'une sexualité à l'autre, mais pff, c'est pas grave. Enfin, tu vois, ce qui est vraiment incroyable pour un film des années 50.
Ouais,
et
puis c'est surtout ce qui est génial, c'est vraiment le côté la contrainte est mère de création, puisqu'il a été fait comme ça, puisque c'était la période où on pouvait pas montrer de nudité, il y avait plein de trucs interdits et tout.
Alors, ça, effectivement, c'est hyper intéressant à aborder parce qu'on s'aperçoit que sans doute, du coup, la créativité à l'époque était possiblement décuplé, puisque effectivement il y avait ce code avec un certain nombre de contraintes à respecter. Et du coup, alors, sans doute qu'il y a plein de gens qui passaient complètement au travers des allusions qui pouvaient y avoir, mais en même temps, avec le recul aujourd'hui, ça garde un côté extrêmement savoureux, la réplique que tu cites.
Ah ouais, Nobody's Perfect, c'est incroyable.
Toi, tu gardes ça, et moi, je garde No Man Deserves This.
No Man Deserves This.
C'est ce que lui dit donc, le saxophoniste quand il l'embrasse habillé en femme. Il dit aucun homme ne mérite, parce qu'elle chante qu'elle en peut plus de l'amour, qu'elle ne tombera plus jamais.
Oui.
Voilà, qu'elle enfermera Marilyn. Son cœur dans son frigidaire.
I'm through with love. Et il y a aussi un truc, peut-être on peut orienter vers The Celluloid Closet,
qui est un reportage, un documentaire d'il y a quelques années. C'est un documentaire qui doit dater d'une dizaine d'années à peu près, effectivement.
Qui est vachement intéressant sur ce sujet-là.
Oui, c'est les acteurs eux-mêmes qui racontent comment c'était détourné et comment c'était traité réellement à l'intérieur et s'ils étaient conscients ou pas de ce qu'on leur faisait jouer dedans. C'est super intéressant.
Effectivement, dans le documentaire, on voit très bien qu'il y a certains acteurs qui ignoraient tout. Effectivement, des...
Ou pas, ou l'inverse.
Ou pas, mais
pour The Children's Hour, c'est vachement intéressant ce qu'elle dit.
Donc on rappelle The Celluloid Closet, je pense que ça se trouve aujourd'hui en DVD.
On le trouve même en streaming aussi, c'est accessible.
Et après, moi, la deuxième chose que je retiens, c'est cette espèce de démocratisation dans laquelle il parle. Et le fait que, ce que je disais à Pollan, je me souviens de ça, qu'on était passé du reportage ethnographique, c'est-à-dire on prend, dans les années 90, on avait ces films où on prenait des homos, on les mettait dans des situations et on regardait comment ça vivait. Ouais. Tu vois, c'était un peu zoologique, on va dire. Mais c'était intéressant, mais c'était intéressant parce que c'était les premières fois où ouvertement on voyait ça, c'est-à-dire sans détour, les personnes étaient vraiment homo, vivaient leur vie d'homo, c'était assez intéressant pour ça. Et la troisième chose intéressante que je retiens, c'est le rapport à la sexualité, c'est-à-dire qu'il y a des moments, dans ce que dit Marc Jean, où en fait il dit les homos sont plus intéressants au-delà de leur sexualité. Et là, je pense à Happy Together de Wong Kar-wai, où tout à coup, le fait que les personnages principaux soient homos, c'est un moyen de rajouter de la solitude dans son film. Mmh. C'est pas. C'est-à-dire, c'est pas un film autour de l'homosexualité, même si les deux personnages sont homos. C'est vraiment un moyen qu'utilise le réalisateur pour raconter son histoire et lui donner plus de profondeur et plus, tu vois.
Ouais, effectivement, c'est l'histoire d'un couple d'Asiatiques
de Hong Kong
qui se retrouve complètement paumé en Argentine. Voilà. Et effectivement, sexualité différente les isole un peu plus.
Et on parle de solitude comme jamais on en a parlé. Et le fait qu'ils soient homo, ça sert ce propos-là.
Ouais.
Tu vois, mais ça parle pas de leur sexualité.
Donc c'est pas le sujet central du film. Ouais.
Non. Donc voilà, les trois choses intéressantes et vers cette démocratisation de.
Alors il y a un tournant aussi, et il l'évoque je crois dans les propos qu'on a entendus, c'est les années 80, le milieu des années 80, tout ce qui se passe autour de la maladie, du sida, et effectivement...
J'adore ce qu'il dit, je trouve ça génial. Ouais.
Comment il s'appelle le film
Philadelphia.
Philadelphia, évidemment.
le cœur des fausses vierges, tu sais.
Non mais moi c'est un film à l'époque qui m'a un peu fait horreur, tout simplement parce que le personnage de l'homo était, pour moi complètement victimisé.
C'est ce qu'il dit très bien, il le dit très nettement, il le dit de façon extrêmement...
C'est fait pour arracher les larmes.
C'est fait pour arracher les larmes,
T'as pleuré ton paquet de larmes, il meurt à la fin et donc l'équilibre hétérosocial va... Enfin voilà, tout va bien.
Ouais.
C'est comme quand ils sont pervers, qu'on tue le méchant, tout va bien. c'est exactement le même. Enfin voilà, l'ordre moral est rétabli parce que le PD meurt. C'est horrible.
Et le petit ami était joué par Antonio Banderas,
qui nous a donné quand même autre chose à voir.
D'autres frayeurs dans le cinéma d'Almodovar.
Ça c'est clair, oui.
On finira avec lui, je pense.
On finira avec Antonio.
On va revenir un peu au local, là.
Oui.
Parlons des classiques bien français. Parlons de La Cage aux Folles, s'il vous plaît,
Allez,
monsieur.
Allez, on écoute Marc-Jean Filler à nouveau.
Oui, une sorte de phénomène de balancier, parce que La Cage aux Folles, dans les années 80, début 80, ça paraît assez logique au vu de l'image que l'on avait à l'époque. Mais par exemple, Le Mariage de mon meilleur ami ou L'Auberge espagnole sont des films des années 90, et on n'a pas vraiment l'impression que l'image de l'homosexuel ait beaucoup évolué. Pourtant, on est 20 ans plus tard.
On est même parfois un peu déçu parce qu'on s'attendrait à mieux. Mmh. Et alors, on est plutôt content quand on revoit La Cage aux Folles, parce que derrière les gros clichés apparents, il y a finalement une tendresse des personnages qui est assez touchante et qui les rend très humains. Et on s'attendrait à ce que dans les années 80-90, parfois, il y a d'abord cela au premier plan. Mais
c'est pas forcément le cas.
C'est pas toujours le cas. Et puis au second plan, on sent bien l'a priori qui traîne, un a priori social lancinant et qui finalement est assez catégorisant.
Et justement, comment analyses-tu la reprise de La Cage aux Folles au théâtre? Est-ce que ça signifie quelque chose dans notre société actuelle?
Le manque de création esthétique, je pense, avant tout. Après, je sais pas.
Parce que c'est quand même assez daté, donc c'est étonnant que ce soit repris.
L'homo ne joue plus son rôle de subversif, ni de victime, ni ne se retrouve plus dans les typologies que tu as décrites. Donc du coup, on reprend les vieux fondamentaux pour faire du spectacle, par manque de créativité, et parce que cette créativité n'est pas alimentée par le renvoi de la sociétale.
Oui, c'est possible. Enfin, je suis assez d'accord. En même temps, je ne sais pas. Parce que si, sur le plan esthétique, ça ne concerne pas que la question des homosexuels dans le cinéma, des reprises, qu'est-ce qu'on en mange? Mais on pourrait espérer quelque chose d'innovant. Et je crois qu'on traîne encore toujours de vieux préjugés qui vont, qui viennent. Et à l'heure actuelle, en ce début du XXIe siècle, on peut être assez déçu de voir qu'ils sont un peu de retour.
Oui, alors effectivement, ils sont de retour. Mais justement, ce qui caractérise l'époque, c'est pas que finalement, il y a cohabitation. On le voit au travers, ne serait-ce que des choix des films que tu as choisis pour illustrer. Il y a à la fois un retour effectivement à des choses qui sont très clichéiques et en même temps on voit apparaître quand même des personnages de gays qui ont une charge subversive assez importante. Voilà.
C'est ce que disait Annie, je pense que la dimension transgressive, est-ce qu'on n'est pas en train de la perdre ou on... enfin, c'est la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire la démocratisation du personnage de l'homosexuel ou de la lesbienne dans les séries télévisuelles par exemple, même sur les séries du web, est-ce que finalement c'est pas une dilution du caractère transgressif qui faisait des personnages particulièrement intéressants parfois quand on le soutenait. Alors ils ont aussi été caricaturés, hein. Il y a eu tous les types, mais il y avait des personnages qui étaient vraiment intéressants. Et c'est comme ça qu'il me semble qu'il faudrait relire ou revoir la Cage aux Folles. Il y a quelque chose de transgressif parce qu'on porte véritablement atteinte à l'idée que l'on se fait d'un couple homosexuel parce qu'on a affaire à un couple de parents, mais de parents qui sont prêts vraiment à tout pour leur gamin. Parce que Albin, Zaza, est vraiment un très bon père. Alors évidemment, on pourrait croire que c'est une figure maternelle. Oui aussi. Mais il est au-delà de la dissociation que l'on pourrait faire entre la figure du père et de la mère.
Voilà, donc on parlait de tout ça puisqu'on le recevait à la veille de la reprise au théâtre.
Ouais, je crois que ça avait même commencé. Ouais.
Et
avec qui déjà? Oh, la reprise au
théâtre. Non, mais... Don et Christian Clavier.
Ouais.
Et donc ce qu'on s'était dit, c'est ils ont gardé le pire.
Ouais, mais c'est ça. Moi, je l'ai vu à la téloche après.
Tu l'as vu à la télé?
Des années après. Et
des années après.
On est maintenant des années après.
On n'est pas en 2017 non plus. Hein.
Et ben 2 ans, ça fait des années. Ouais.
Et qu'en as-tu pensé?
À peu près la même chose que vous. C'est-à-dire, c'est vraiment... ils ont gardé le pire. C'est-à-dire que... Bon, en même temps, Marjan Filaire parlait de créativité.
Oui, de façon générale, voilà. C'est peut-être pas...
Est-ce qu'on peut chercher chez Christian Clavier quelconque créativité, tu vois?
Ça va,
non. Bah, plus aujourd'hui.
Ouais, voilà. Et surtout, voilà. Quoi,
et pas sans ses comparses du Splendide, effectivement.
Ouais, qui en plus était très attaché à une époque.
Oui.
Mais en plus, là, ça s'adresse vraiment à la ménagère de moins de 50 ans qui vient se délasser au théâtre le soir. Enfin, tu vois, c'était...
Elle n'a pas plus de 50 ans, même, cette ménagère.
Non, mais il y a 2 ans, elle ne les avait pas encore.
Non, c'est ça.
Elle avait 48 ou 49. Et voilà, enfin, tu vois, donc... Ouais. Voilà, je pense qu'il y a tout ça, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau esthétique, Didier Bourdon, même si c'est un excellent comédien, là-dedans, il est très mauvais. Mmh. Il est très mauvais parce qu'il garde que le côté caricatural, je pousse des grands cris et je mets des robes serrées qui ne me vont pas.
Effectivement, moi, j'ai même pas vu Toi, c'est à la télé que tu l'as vu, c'est ça?
Ouais, ouais, je n'avais pas dépensé des sous pour aller voir ça, quand même.
Alors, c'est l'occasion, peut-être, de reparler, effectivement, de la Cage aux Folles et de Michel Serrault dans ce rôle. Il le dit très bien, Marc-Jean Filaire, c'est vrai que... alors, derrière ce côté un peu cliché, effectivement... Les personnages ont une véritable épaisseur. C'est un film, quand on le revoit aujourd'hui, qui finalement il est daté, mais il n'a pas forcément vieilli. En tous les cas, ça fonctionne encore. Et y a énormément d'émotions. Effectivement, le personnage de Serrault est extrêmement touchant.
Ah
et
oui.
On est largement au-delà des clichés que, a priori, le film véhicule.
Oui, bien sûr. Bah, Serrault, il a cette dimension dramatique que Bourdon n'a pas. Enfin, là, c'est vraiment... on a un vrai personnage dramatique avec Zaza Napoli, qui est resté une figure légendaire. Zaza Napoli, c'est dans la légende maintenant. Ça fait partie de la culture française, Zaza Napoli. Et en plus, c'est vrai que quand on regarde un peu ce qu'on nous présente, on est au début des années 80. Je crois même qu'on n'est même pas dans les années 80, non?
Le premier, c'est possible que ce soit même fin des années 70, oui.
Eh bien, on nous présente quand même une famille homosexuelle comme on peut en voir ouvertement aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire deux pères qui élèvent leur enfant. Mmh. Et ça se passe plutôt bien, apparemment. Enfin,
C'est pas simple, c'est sûr.
C'est pas simple
mais,
à gérer.
Mais,
c'est pas simple pourquoi? Parce que c'est la société à côté qui est pas simple.
C'est la société à côté.
Le trio fonctionne très bien.
Symbolisé notamment par la belle famille.
Ah, yes.
Ariane, ça t'évoque quoi, toi, Zaza Napoli?
Mais vous savez quoi? Ça me donne envie de le voir à la fin.
Pourquoi tu l'as jamais vu?
Je te promets.
C'est vrai?
C'est pas vrai. Si, mon Dieu.
Ben, c'est pas
partout
trop tard.
Partout les seins, s'il te plaît.
On fait une pause musicale, peut-être?
Allez. Madonna, she's too rich. Everybody wants to be rich.
C'était Amanda.
Amanda le porc.
Voilà, parce qu'on va vous rebassiner avec nos chouchous hein, cette année.
Ouais, parce qu'il y a le film de Virginie Despentes qui sort en novembre. Je ne vous l'avais pas encore dit, hein, je vous ai bien vu.
Et qu'est-ce que je veux dire ? Mais peut-être que si vous, vous avez des chouchous, vous pouvez nous donner quelques infos. Ça peut peut-être devenir les nôtres, si vous en avez marre des nôtres.
Ouais, par exemple.
Ouais, par exemple.
Amis auditeurs. Donc ça, c'était Amanda Leport et le titre, c'est...
Marilyn.
Ouais, tu le fais bien, Ghislain.
Ouais, je fais bien Marilyn.
Donc pour nous souffler des nouveaux chouchous sur notre page Facebook, ça marche bien.
Suite et fin de notre première émission sur la culture populaire ou comment la culture gay accède dans les zones les plus reculées de nos campagnes françaises. Donc au travers de la cage aux folles, mais pas seulement.
Bah non, pas seulement.
Donc...
et heureusement, sinon
bah ouais,
ça serait
sinon,
pas
comme
moi,
je l'ai pas vu,
même.
Bah plus de quoi.
Au bout d'un moment.
Mais qu'est-ce que t'as vu alors ?
J'ai vu ce qu'on entend dans l'autre son avec Jean et Marc-Jean.
Celui qu'on écoute maintenant ?
Si tu veux, allez.
Allez, c'est parti. C'est pas grave, Tao. On envoie le son suivant.
Alors, ils ont été regroupés parce que c'est en fait, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler des inoffensifs. C'est-à-dire ceux qui, dans la manière dont ils sont représentés, n'ont pas vraiment de. Enfin, ne sont pas représentés dans les films comme ayant une sexualité, ou du moins, on ne la voit pas trop.
Qu'est-ce que tu en penses, Marc Jean ?
Ça se rapproche assez des premiers temps du cinéma où finalement il n'y a pas encore une homophobie qui se développe de façon ouverte. Dans son bouquin, Rod Bettoni lui parle notamment des années folles. C'est un certain nombre de personnages qu'on appelle en anglais la Sissy, qui est un personnage relativement inoffensif, c'est-à-dire qu'on repère bien, il sent bon, il est dans la mode, où il s'occupe de costumes quand on est dans le domaine du spectacle. Il est souvent très très élégant, et puis on le repère facilement sans qu'on ait besoin de dire qu'il est homosexuel, et puis comme il est bien cadré, il effraie personne. Viendront après des personnages plus troubles parce que justement on les reconnaît moins au premier abord. Oui, on
et
a
puis
des
y a
personnages.
Il y a le stéréotype aussi de l'homo garçon qui est toujours le bon copain de la fille hétéro et qui va la conseiller dans sa vie sentimentale, et donc l'inverse, la fille lesbienne qui va conseiller le mec dans la manière de draguer les filles.
Oui, ça c'est assez récurrent et le cinéma s'en est saisi, l'a reconduit assez souvent. C'est pas si loin d'une certaine réalité parfois, mais après ça devient un cliché au cinéma.
Oui, parce que ça devient celui qui n'a pas de sexualité qui conseille l'autre qui en a une. Et puis on se peut.
Ah, on a coupé Jean.
on a coupé Jean.
Mais Jean, donc, avait, pour cette discussion-là, il nous avait fait, en fait plusieurs montages pour l'émission. On a reçu Marc-Jean Filaire. Et donc, les sons que je vous ai épargnés, il y avait donc un son sur la cage aux folles, le mariage de mon meilleur ami et l'auberge espagnole.
Donc, les films que tu as vus, c'est ça ? Non, mis à part la cage aux folles.
Voilà, le mariage de mon meilleur ami, je l'ai vu, ouais.
Alors ?
Et Bah ouais, bah c'est le bon copain, il est super merveilleux, mais voilà quoi. Enfin, c'est vraiment le personnage d'appui, il est super gentil, tout ça, il est bien lisse.
Très lisse, très politiquement correct. Ouais.
Et déjà, l'auberge espagnole, c'est un peu plus... parce que d'ailleurs, l'extrait qu'il avait mis, c'était... donc t'as Cécile de France qui explique...
Oui, c'est ça, c'est elle qui joue le rôle de...
Ouais.
De...
Et l'extrait de qu'avait choisi Jean,
colocataire.
C'était... Elle attrape son coloc pour lui montrer ce qu'il faut faire à une fille pour la chavirer, quoi.
Oui.
Et son pote, il est super gêné, parce que vraiment, elle l'enlace, elle l'empoigne, et à la fin, il y a sa nana qui arrive et qui dit « Viens, viens, on va lui montrer !»
Apparemment, c'était beaucoup plus.
Donc voilà, là, là le personnage avait vraisemblablement une sexualité, ce qui inquiétait beaucoup Jean, voilà, que ce soit à faire valoir qu'il n'avait pas de sexualité propre.
Alors là, effectivement, dans l'auberge espagnole, elle a une sexualité, on le voit d'ailleurs, hein, enfin on le voit, il n'y a pas de scène non plus tellement.
Oui, je m'en rappellerai, hein.
C'est un film érotique.
Mais on voit quand même sa copine ou ses copines, il me semble, apparaître dans le film. Ceci dit, elle reste aussi. Le faire valoir du personnage principal et la bonne copine, non ?
Ouais, mais c'est un peu dans ce qui était le propos aussi du montage qu'avait fait Jean et de la discussion qu'on a entendue, c'est-à-dire que voilà, c'est des personnages d'appui dans l'histoire, c'est pas un personnage central ou qui, voilà, par rapport à ce qu'on a pu entendre aussi un peu plus tôt sur d'autres choses qui avaient été faites de façon antérieure et...
Et les personnages de Sissi, donc Ghislain, est-ce
Moi, à part Romy Schneider, j'en vois pas d'autres.
J'étais sûr qu'il attendait pour la perche.
Je t'ai tendu la perche.
Bah oui, je sais, mais j'aime bien attraper ta perche.
J'attendais aussi ça, mais bon, je vais vous laisser. Hein. La porte du studio, c'est par là.
Et donc, ça, on en parle dans le documentaire qu'on a évoqué tout à l'heure. On le redit, c'est le Closet. Hein. Effectivement, c'est des personnages de... Alors, ils ne sont pas identifiés explicitement comme étant homo, mais alors...
Mais ça va sans le dire.
Ça va sans le dire, effectivement.
Il y a d'autres choses vachement plus explicites aussi. Hein.
Ouais. Alors, dernier... Oui, juste là, avant le dernier son.
Quelques petits films quand même qui seraient bien, dont on n'a pas parlé, qui sont quand même des films importants et un peu cul, comme A Beautiful Laundrette, comme Torchon Trilogy, comme Brokeback Mountain, comme ce genre de choses-là, qui ont été chacun à leur époque... Des films importants.
Oui.
Je peux faire pareil.
Ouais.
Comme When Night Is Falling, If These Walls Could Talk, en français Sex Revelation, ça n'a aucun sens. Mais bon, il y a Sharon Stone dedans, donc il fallait la mettre sur la jaquette. Je sais pas, Go Fish, High Heart, il y en a plein. Hein.
Voilà, et il y en a d'autres. On écoute le dernier son, parce qu'il y en a d'autres qui sont évoqués.
On va en parler d'autres, ouais, voilà.
Et puis on se peut se demander aussi si les évolutions ne sont pas différentes entre ce qu'on pourrait appeler un cinéma gay et lesbien. Et un cinéma grand public. C'est vrai que dans le grand public, on a l'impression que ça évolue lentement. Dans le cinéma gay et lesbien, des personnages complexes, on en a déjà depuis un moment quand même.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Sauf qu'ils ne sont pas très connus.
Mais on est content que dans le cinéma grand public, on retrouve une variété des personnages où apparaissent des personnages gays ou lesbiens. Et que finalement, c'est pas si mal s'ils n'ont pas des grands rôles, s'ils ne sont pas des personnages essentiels et que tout tourne autour de leur sexualité. Parce que finalement, c'est qu'on oublie qu'ils ont une sexualité qui n'est pas celle de la norme.
Alors en même temps, à côté de ça, il y a quand même, on va dire, dans les années 90, l'avènement de personnages gays, lesbiens, avec une charge subversive dans le cinéma d'auteur ou le cinéma underground. Je ne sais pas, moi je pense à des films comme Osler White, dont tu traites.
Oui, mais Boss Labrousse est quand même un réalisateur qui est lui-même déjà très, très subversif.
Alors oui, tout à fait.
Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un film grand public.
Non, ce n'est pas un film grand public. Justement,
mais il a été beaucoup vu quand même.
Mais l'intérêt aussi de ton travail, c'est de traiter pas uniquement des films grand public. Alors, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, dans le cinéma d'Almodovar, qui aujourd'hui quand même arrive à avoir un auditoire qui est quand même assez large. Alors, dans ses derniers films, c'est peut-être moins évident, mais bon, la loi du désir dont tu traites, c'est quand même une galerie de personnages assez hallucinants et hallucinés, non ?
Ah, ils sont tous très, très troubles, très, très décalés, avec de très bons acteurs. Oui, c'est une galerie de portraits, quoi. Il y a là toute une série de personnages... qui sont riches parce que justement ils n'entrent dans aucune catégorie préétablie. Voilà. Mmh. On a fait la figure tenue par Antonio Banderas, qui est un hétérosexuel amoureux d'un homme, et qui est vraiment hétérosexuel, mais ouais. qui aime tellement ce réalisateur-là qu'il est prêt à avoir une sexualité avec lui.
Ouais,
Le personnage joué par Carmen Maura, qui est extraordinaire,
qui est
un personnage de transidentitaire, et qui, pour l'époque, c'était très, très décalé. En plus, c'est une femme qui joue le rôle. C'était pas innocent vu la place qu'a pu occuper Carmen Maura dans le cinéma par la suite. C'est toujours quelqu'un qui était décalé chez Almodovar déjà depuis pas mal de temps.
Puis de toute façon, dans tous ces films, globalement, il y a toujours un homosexuel ou un trans dans les films d'Almodovar. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est toujours intégré et puis il fait partie de la folie du réalisateur, en fait.
Oui, il fait partie des couleurs, des couleurs almodovariennes. Comme le orange ou le rouge, l'homosexuel fait partie des motifs.
Voilà, on a un motif chez Almodovar. Mais les trans aussi, c'est un grand réalisateur, Almodovar, qui a fait des grands films. C'est vrai que La Loi du Désir, c'est assez incroyable.
Entre autres films, effectivement, il y a. Enfin, le dernier, après, on aime ou on n'aime pas.
Ah, moi, j'ai applaudi à la fin de La Pielle qui est habito.
D'accord. Et pourquoi alors?
J'ai trouvé ça génial. Tu vois, tout ce que ça questionne sur qu'est-ce que c'est être ou devenir femme, c'est énorme, quoi. Tout ce que ça peut mettre en branle, en réflexion chez chacun, chacune, j'ai adoré. Mmh. Et puis ça m'a donné envie de m'offenser sur Louise Bourgeois et c'était pas mal aussi.
Bon, on va... Voilà, l'évocation va s'achever ainsi, puisqu'on est déjà au bout de la demi-heure d'émission et on se retrouve la semaine prochaine. Et on évoque quel domaine la semaine prochaine ?
Les séries télévisées, je crois.
Gagné.
Oh ouais.
Tu peux revenir la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.